Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h30, passé de 1 minute ce soir dans le grand débat du Club des Idées. On s'intéresse au phénomène Tesla et à son fondateur, l'excentrique Elon Musk. Alors on en parlait juste après la pause avec nos invités. Elon Musk, c'est un Sud-Africain qui est né en 71, qui a fait des études au Canada et aux États-Unis, qui est ingénieur et qui très vite, en 99, va comprendre l'attrait d'Internet. Il fondera XCOM, c'est un site d'activité bancaire, et puis PayPal. C'est PayPal qui fera véritablement sa fortune. Est-ce qu'on peut dire, Stéphane Lauer, éditorialiste au Monde, que c'est un visionnaire, Elon Musk ?
Oui, c'est un visionnaire et en même temps, il a un côté un peu dingue. Enfin, il a pas le comportement d'un patron de boîte classique, par
exemple.
Mais
est-ce que c'est pas ça qui fait son charme et son talent ?
Ça peut faire son charme, mais il faut discuter aussi avec ses collaborateurs. C'est quelqu'un d'extrêmement exigeant avec lui-même, mais surtout avec les autres. Ça pose des problèmes de management parce qu'il y a eu pas mal de départs aussi dans les équipes Tesla. C'est une entreprise extrêmement attractive, mais ouais. Il faut tenir le choc. C'est quelqu'un qui peut arriver dans une usine avec son sac de couchage et il va dormir au pied de son bureau parce que voilà, il a des horaires de dingue. Donc Elon Musk,
c'est ce qu'on appelle un geek. C'est un geek, Elon Musk ?
Oui. Enfin, c'est plus qu'un geek. Hein. Il est une telle personnalité que... Mais moi, ce que je pense, c'est que Elon Musk, c'est l'actif le plus précieux de la boîte et en même temps, c'est ce qui peut faire exploser la boîte. C'est-à-dire, oui, le jour... Oui. Où il part parce qu'il est renversé par le conseil d'administration ou quoi, ça fait dégringoler la valeur de la boîte et il est absolument incontrôlable.
Elle s'est bien reprise l'action depuis, on en parlait tout à l'heure. Je voudrais simplement qu'on avance pour bien comprendre ce que vous disiez, c'est-à-dire que Elon Musk, il a aussi des particularités très assumées. Il n'a pas de bien immobilier par exemple, il est locataire de sa maison. Pour un grand milliardaire comme ça paraît quand même assez surprenant. Il dit refuser de percevoir son salaire, alors il détient des actions. Et il ne veut pas revendre ses actions. Il dit qu'il veut les garder jusqu'au moment où il pourra lever ses actions. C'est comme ça que ça se passe sur les marchés financiers. 50 milliards de dollars d'ici 2028. Il ne touche pas de dividendes non plus. Et il vivrait en fait grâce à la vente de ses biens immobiliers à l'époque où il a gagné pas mal d'argent avec notamment PayPal. C'est un excentrique, Erwan Beneze. Vous êtes journaliste au Parisien, Elon Musk.
Il a un grain de folie, ça c'est sûr. Mais je dirais que c'est un peu Il est à l'industrie ce que Mozart était à la musique. Et pour tous ceux qui ont vu Amadeus de Milos Forman à l'époque, on voyait cette excentricité qui s'incarnait dans la musique.
Qui est la source de la créativité, en vérité.
Voilà. Elon Musk puise dans cette... petite folie, pas si douce que ça, pour y avoir l'énergie et la combativité, la résilience dont il a fait preuve, parce qu'il a quand même affronté beaucoup, beaucoup d'épreuves.
Alors, ce qui est intéressant, Michael Valentin, vous êtes associé fondateur chez OPO, c'est un cabinet de conseil en performance industrielle, c'est que généralement, les champions de la tech sont plutôt des démocrates. Ben lui, c'est raté. C'est un républicain qui a d'ailleurs été engagé comme conseiller de Donald Trump, qui a finalement quitté ses fonctions quand ce dernier a décidé de quitter les accords de Paris sur le climat, parce qu'Elon Musk est convaincu que l'écologie est le combat de demain. Mais c'est vrai que c'est un républicain, ça fait partie aussi du personnage et peut-être de ses contradictions.
Ouais, je crois que ce qui est important pour lui, au-delà des aspects purement politiciens, c'est vraiment en fait comment mettre en place sa vision. Encore, je reviens à ça, parce que c'est hyper important pour comprendre le personnage. Pour moi, c'est le retour du patron entrepreneur dans le sens visionnaire. C'est-à-dire qu'il a une vision et c'est plus fort que tout. Donc ça peut arriver, et comme vous dites, ça peut mener aussi à certaines formes de dérive. Mais ceci dit, moi j'étais sur place là-bas à Fremont, j'ai passé du temps avec ses équipes. Je peux vous dire qu'il y a une culture qui est très très forte et il y a énormément d'énergie sur place.
C'est-à-dire que les gens, par ses équipes ?
Les gens, en tout cas là-bas, les gens que j'ai rencontrés, l'adulte, c'est presque en fait de l'ordre du mythe. Mais ce qui est à la fois intéressant, c'est qu'il y a cette espèce de mythe.
Comme le patron d'Apple, comme
c'est
Zuckerberg,
ça. Sauf
chez
que
Facebook.
La différence, c'est comme vous dites, justement quand j'y étais, c'était la période où ils avaient du mal à monter en cadence sur la Model 3 et on le voyait dans l'atelier qui était là, c'est que c'est le patron entrepreneur mais qui est complètement accessible parce que dans l'esprit start-up, vous avez beau avoir une boîte de 30 000 personnes, vous allez vous poser à côté de l'opérateur parce qu'il n'arrive pas à résoudre un problème de robotique et c'est lui qui va résoudre avec l'opérateur. Donc ça pose des questions sur le management parce que c'est très horizontal et ça impulse une énergie et il faut suivre, c'est clair. Mais par contre, en termes de vitesse, et c'est ça qui est très important, pour atteindre sa vision, c'est la vitesse. Et donc qu'est-ce qui fait que je vais plus vite ? Parfois, ça veut dire que je vais aller aider les équipes moi-même et je vais montrer l'exemple en fait et du coup, je vais être suivi. Et puis parfois, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est
combien de salariés chez Tesla ?
Alors aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire exactement, mais les chiffres que j'ai, l'ordre de grandeur, c'est 30 000. Alors avec la Chine et puis l'Allemagne, on va passer peut-être à 40 ou 50 000 personnes assez rapidement parce qu'il est en train d'ouvrir des sites un peu partout dans le monde. Mais c'est à peu près 40 000 personnes, quoi.
Et c'est un système de production très particulier aussi. J'ai vu qu'il y a une usine, par exemple, qui vient d'ouvrir pour fabriquer les voitures, qui est totalement automatisé. Alors là, vous parliez tout à l'heure de problématique de salariés. Il n'y a plus de salariés. Il y a certaines usines où c'est que des robots qui fabriquent les voitures.
Alors, j'avais visité l'usine d'assemblage, la première usine d'assemblage de Tesla en Europe, première usine en Europe de Tesla qui faisait de l'assemblage, donc qui faisait venir des États-Unis les voitures et puis qui les assemblait. Et on avait l'impression d'être dans un laboratoire...
C'est Star Wars.
Voilà, c'est ultra-tech avec des robots partout, tout était blanc. C'était assez étonnant, ça ne ressemblait absolument pas à une usine de construction ou d'assemblage de voitures. Et effectivement, quand vous parliez de système, il y a aussi toute l'organisation. En fait, Elon Musk a mis en place une organisation intégrée, c'est-à-dire qu'il ne veut pas travailler avec des fournisseurs ou le moins possible. Et donc, il veut avoir la mainmise sur l'ensemble de la chaîne. Et notamment l'élément le plus important.
Toutes les pièces de la voiture.
Oui, et notamment l'élément le plus important, le moteur. La batterie. Vous parliez de ces grandes usines qui sont en train d'être installées. La batterie, c'est 40% du coût final d'une voiture électrique.
40%.
Et donc, pas question d'être dépendant, notamment des principaux fournisseurs qui sont les Chinois. Et donc, il a mis en place des gigafactories. Il y en a aujourd'hui 5 à peu près, dont une en Allemagne, une en Chine, 3 bientôt aux États-Unis. Et c'est un modèle où il a le contrôle sur tout.
Vous les avez conduits, vous, ces fameuses Tesla, Stéphane Lauer? Non.
Non, pas pour ma part.
Qui moi, les a conduits ici? Et alors c'est si incroyable que ça ou pas?
J'ai une petite anecdote qui résume très très bien la voiture. J'étais avec un photographe du journal, et puis on était assis. On avait à l'époque la voiture qui accélérait le plus, la Tesla. Je crois que c'était en 2 secondes 8, qui est des performances.
C'est le modèle S, c'est ça?
Incroyable, la Tesla S, qui avait l'option Ludicrous, qui permettait d'accélérer en 2 secondes 8.
Donc là, c'est comme une voiture de course, hein, c'est 0 à 100 en 3 secondes et demie ou quelque chose comme
2 secondes 8. Donc c'est l'équivalent d'une Bugatti Veyron, des voitures les plus puissantes. Et donc, on se dit, on est sur
tout ça en électrique.
Tout ça en électrique, sans un bruit. Donc, on est sur une petite route des Pays-Bas. On va justement visiter cette fameuse usine, faire un reportage. On se dit, allez, on s'arrête sur la petite route. Il n'y a personne, c'est une ligne droite. Et on tente l'accélération. On accélère. Et puis, je m'arrête. Et mon photographe qui était avec moi me dit, je crois que j'ai eu un voile noir, comme les pilotes de chasse. Alors, c'était certainement psychologique, mais l'accélération était telle qu'il s'était un instant cru dans un avion de chasse.
Et l'ergonomie de la voiture, parce qu'on dit que tout est électronique, dirigé avec un grand écran là, qui ressemble à une tablette. C'est très minimaliste. On a presque l'impression d'être dans une fusée, d'ailleurs.
Alors, ça, c'est un des principes super importants aussi des entreprises qui viennent de la tech, c'est qu'elles sont très tournées, ce qu'on appelle vers l'usage, user-centric, ce qu'on dit en anglais. C'est-à-dire que quand vous définissez le produit, la première chose que vous regardez, c'est pas forcément le moteur, les roues, etc. C'est quand je suis assis à la place de celui qui conduit, qu'est-ce que je ressens? Comment j'ai mes informations en termes d'ergonomie? Est-ce que c'est facile? Pourquoi est-ce que tout le monde adore l'Apple, l'iPhone ou beaucoup de personnes? Parce que c'est hyper simple. Donc là, l'idée, c'est de retrouver la même chose avec un écran hyper simple. Vous allez trouver toutes les fonctions sur un écran tactile. Puis l'autre sensation, quand on conduit une Tesla, c'est le côté conduite autonome, en fait. C'est-à-dire que vous êtes pour la première fois, vous êtes dans une voiture, en fait, qui va conduire toute seule.
Mais ça fait pas peur, ça, de pas avoir la maîtrise du véhicule?
C'est comme tout, si vous voulez. Au départ, on a peur. Et puis dans un avion, on n'a pas peur quand on est en pilote automatique. Dans une voiture, on s'y habitue aussi. Donc, c'est un peu, c'est l'avenir, quoi.
Stéphane Lauer.
Alors, juste un petit bémol sur cette vision idyllique. La grande force de Tesla, c'est son avance en termes d'électronique embarquée, de logiciels, etc. En termes de finition pure, ils sont encore derrière le luxe allemand. Ils ont eu des problèmes de montée en cadence. Mais à la
limite, parce que c'est pas donné quand même. Hein. L'entrée de gamme, c'est 55 000 euros au bas mot. Hein, pour
voilà,
une
ça peut aller jusqu'à 80 000 et quelques. Mais le problème, c'est que les utilisateurs de Tesla, ils sont prêts à passer au-dessus de ces petits défauts de jeunesse, parce que ce qui les intéresse, c'est le rapport avec la voiture, et c'est pas avoir un tableau de bord nickel, etc.
Vous m'avez donné envie, là, j'ai envie d'en essayer une, par conséquent, parce que moi, j'ai jamais monté dans ma vie dans une Tesla. On continue d'en parler juste après la pause à 19h40, et on va s'intéresser aussi à l'autre projet un peu fou d'Elon Musk, aller sur Mars pour coloniser la planète. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, ce soir, débat absolument passionnant dans le Club des Idées sur le phénomène Tesla et son fondateur, l'excentrique Elon Musk. Alors, vous me disiez, les invités qui sont dans le studio d'Europe 1 avec moi, que l'une des particularités aussi de cette voiture, Michael Valentin, vous êtes associé fondateur chez OPO, cabinet de conseil en performance industrielle. L'une des particularités, effectivement, de cette Tesla, c'est qu'elle peut changer de logiciel à distance.
C'est un des gros défis en fait aussi du monde industriel en général. C'est pour ça que le modèle Tesla est une source d'inspiration pour tous les industriels. C'est qu'en fait, l'idée, c'est que dans l'ancien monde, vous faites un produit Et puis ensuite, une fois qu'il est vendu, il est un peu entre guillemets oublié, ça devient un bien qui est stocké. Là, vous faites un produit. En fait, l'idée, c'est que vous gardez la relation avec votre produit parce que vous allez continuer à l'améliorer. Vous faites des montées de version comme un iPhone. Et du coup, vous pouvez pousser des fonctionnalités. Donc, quand vous avez une Tesla, bah, en fait, toutes les semaines, elle va s'améliorer. Et donc, c'est une voiture qui s'améliore à distance.
Il n'y a pas besoin de changer.
Vous pouvez pousser une amélioration de l'autonomie de la batterie, on en parlait. Vous pouvez même améliorer les freins. Il a poussé une amélioration des freins à un moment donné. Mais il y a aussi ce côté, on parlait de Elon Musk tout à l'heure. Il est très présent sur Twitter. Vous pouvez lui écrire pour une remarque. Il y a beaucoup d'utilisateurs de Tesla qui lui écrivent « Elon, est-ce que tu pourrais ajouter cette fonctionnalité où quand on descend de la voiture, si j'ai une position de mon siège, quand je retrouve cette position, ben, la voiture va se remettre automatiquement. » Et en deux semaines, cette fonctionnalité a été poussée à toutes les Tesla du monde. Donc c'est hyper interactif,
incroyable.
En fait.
Incroyable. Erwan Benezé.
Ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, avec cette voiture, vous la mettez au garage le soir, vous allez vous coucher, et le lendemain, comme un vulgaire téléphone, vous avez une mise à jour. Et comme tout le hardware, c'est-à-dire les capteurs, le cerveau électronique, etc., sont déjà présents, c'est prévu, avec la mise à jour du software, de l'électronique, du programme, le lendemain, vous vous réveillez avec finalement une voiture différente de celle que vous avez conduite la veille.
Bon, alors tout ça, c'est formidable. On n'a pas arrêté de dire que tout ça était formidable. Il y a quand même, vous le disiez tout à l'heure, d'abord les finitions, Stéphane Noer, vous êtes éditorialiste au Monde, qui ne sont pas terribles, pas au niveau en tout cas des grandes marques automobiles de luxe. Il y a aussi le fait qu'une voiture électrique, bah, même si elle roule longtemps, on est obligé de s'arrêter quand même pour recharger le véhicule, même avec les superchargeurs qui mettent une heure, deux heures, mais quand même pour faire une distance de longue distance, 700, 800, 900 km, bah, faut prévoir le temps de pause.
Oui, mais là encore, Elon Musk, il a un temps d'avance. Il y a une amélioration permanente de la capacité des batteries. Et surtout, ce qu'il faut comprendre dans l'écosystème Tesla, c'est que comme ils sont leaders, vous disiez tout à l'heure, ils ne construisent que 500 000 voitures contre 10 millions pour Toyota. Mais le point, c'est que lui, il construit 500 000 voitures électriques. Renault, qui est le premier vendeur en Europe de voitures électriques avec la Zoé
notamment,
c'est 3% de ses ventes. Donc, il n'a pas du tout les mêmes économies d'échelle. Il n'a pas du tout le même rapport avec ses fournisseurs. Si on prend une référence dans l'automobile traditionnelle, l'excellence de Mercedes, elle a été acquise à cause d'une relation très particulière avec Bosch.
Oui.
C'est ce qui leur a permis d'avoir toujours un temps d'avance en termes d'innovation, etc. Tesla fait exactement la même chose avec ses fournisseurs et c'est lui qui donne le tempo dans le secteur pour les innovations.
Alors, il y a aussi quelque chose qui est assez fou chez Elon Musk, c'est qu'il ne s'arrête pas aux voitures électriques. Il veut aller sur Mars pour, dit-il, sauver l'humanité et installer une colonie sur la planète rouge. Alors, il a créé pour ça la société SpaceX, c'est la première entreprise privée à aller dans l'espace et à ravitailler d'ailleurs la Station Spatiale Internationale. Là encore, c'est un immense succès qu'il a réussi, personne n'y croyait. Mais ça montre aussi l'excentricité du personnage, parce que vouloir aller coloniser la planète rouge, c'est quand même un projet un peu fou, ça, Erwan Benezé.
Ça montre en tout cas sa capacité à mettre en jeu ou à concrétiser ses rêves, parce que ses yeux tournés vers le ciel, il les a depuis qu'il est tout petit. Il était passionné de science-fiction, passionné de bande dessinée avec des super-héros. Donc, il se voit, lui, en super-héros qui va sauver l'humanité. Pour sauver l'humanité, il faut pouvoir aller, par exemple, coloniser Mars. Et donc, très, très tôt, il a mis en place une sorte de parcours à étapes. Hein. Tesla en était une, SpaceX en est une autre, l'intelligence artificielle en est une autre.
Il y a l'Hyperloop aussi, c'est le train ultra rapide qui fonctionne.
C'est un train subsonique. Alors, c'est pas sa société, c'est un projet qu'il a accompagné. Et c'est une sorte de capsule dans laquelle on pourrait mettre des voyageurs. Et qui
pressurisé, qui fonctionne à très grande vitesse.
Sous vide et qui peut se déplacer à 1200 km/h. Tout ça sont des projets qui avaient l'air complètement fous. Et en fait, aujourd'hui, il y a des prototypes qui existe et qui montre qu'en fait, il est capable vraiment d'appliquer ce qu'il a dans sa tête.
Et l'idée aussi d'un avion supersonique électrique, Stéphane Noer, enfin, il regorge de projets, cet homme-là.
Mais ce qui est amusant, c'est que dans l'aérospatiale, on a eu le même phénomène que dans l'automobile. C'est-à-dire que tout le monde l'a vu arriver avec ses idées un peu fantasmagoriques, en se disant, il n'y arrivera jamais, c'est complètement fantasque, etc. Et 10 ans, 15 ans, 20 ans après, on se rend compte qu'il a imposé une rupture. Son lanceur spatial, il est capable de revenir sur Terre. Et maintenant, c'est Arianespace qui court après SpaceX.
Michael Valentin. sur ces projets fous. Ça va aller à son terme,
ouais,
tout ça.
Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, j'ai rencontré là-bas aussi des personnes qui étaient auprès de lui sur SpaceX au départ. Et ce qu'il me racontait, c'est que tout le monde le prenait vraiment, véritablement pour un fou. C'est-à-dire qu'il était dans un hangar et il testait en fait des lanceurs comme ça avec des manettes. Et la plupart des gens qui allaient le voir, effectivement, le prenaient pour un fou. Et il est dans un salon en fait à l'époque où il a dit aux autres, à tous les gens de la NASA, etc. Dans 10 ans, vous êtes morts. Et tout le monde a éclaté de rire.
Ah oui.
Et en fait, c'est ce que je vous disais au début de l'émission sur le côté exponentiel en fait. Et maintenant, SpaceX, tout le monde le prend au sérieux. Donc, il y a ce côté. Quand je crée quelque chose, je le pense, je fais un noyau qui fonctionne bien et ensuite je passe à l'échelle. Ce passage à l'échelle est super important, quelle que soit la société qui crée. Et donc, pourquoi ? Parce qu'il a cette vision de « je veux sauver la planète ». Je pense qu'il y croit fondamentalement. Vous disiez tout à l'heure, il ne possède pas de biens. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est mu par cette vision, alors qui est effectivement très excentrique. Mais en tout cas, il y croit et il veut atteindre ce but. Et donc, toutes les sociétés qui créent, finalement, elles ont pour objectif de contribuer à la transition énergétique et puis de résoudre ce problème climatique. Quoi.
Alors, il fait de drôles de blagues quand même qui mettent en péril sa société. Par exemple, pour un 1er avril, il avait annoncé la faillite du groupe pour faire de l'humour, ce qui avait eu un impact financier important, notamment en bourse. Il a même fait une fausse annonce de retrait de la bourse de Tesla, ce qui lui avait valu une plainte pour manipulation de cours des autorités financières, notamment aux États-Unis. C'est peut-être là, pour terminer, les limites du personnage. Il est son propre ennemi. Il peut mettre en péril l'avenir de sa société.
Alors, il adore provoquer, ça c'est sûr. Il a aussi ce mélange de culture très populaire. Hein. Le lanceur qui a propulsé la Crew Dragon, la capsule dans laquelle les astronautes se trouvaient, c'est la Falcon, c'était le Falcon 9. Et c'est un petit clin d'œil au Millennium Falcon, qui était piloté par Luke Skywalker dans La Guerre des Étoiles. Et donc, il aime bien aussi passer un peu pour un doudingue. Et puis derrière, il met quand même toute la volonté et tout le travail pour arriver à ses fins. Il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui travaillent avec lui, et notamment y compris la NASA, le gouvernement, disent que le plus grand risque qui menace Elon Musk, c'est Elon Musk lui-même et ses frasques ou ce côté fantasque.
Merci, c'était absolument passionnant. On aurait pu continuer des heures et on en reparlera, j'en suis sûr, avec vous. Merci à tous les trois.
Merci.